Aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on commente l'autorité de Jésus, parce que c'est sur elle que se fonde notre foi et notre espérance de ce salut éternel qui est aussi bonheur éternel. Dans la première lecture, celle du Deutéronome, Moïse donnait cet avertissement à propos des prophètes. Ils seront toujours là, même dans l'Ancienne Alliance, vous voyez, on les appelait dans l'Ancien Testament les hommes de Dieu, les prophètes. Ça veut tout dire, des hommes vraiment consacrés à Dieu, dont la grande attention, c'était le Seigneur Dieu et pas les choses de ce monde. Le prophète, donc, selon Moïse, est l'interprète authentique de la parole de Dieu, parce qu'à lui, comme aux disciples auxquels Jésus expliquait des paraboles, eh bien le Seigneur explique quelle est sa volonté. Il se manifeste à lui. Moïse se tenait devant Dieu face à face. Et ça, c'est beau de voir qu'avec la nouvelle alliance, ce qui n'était que réservé à quelques-uns, des choisis, des élus, eh bien nous sommes tous appelés à partager cette connaissance authentique de la parole de Dieu, à vivre en la présence de Dieu, quels que soient nos états de vie. C'est plus simplement Moïse au milieu du peuple, c'est un peuple de Moïse que Jésus a créé, a suscité par sa passion et par sa résurrection. Alors, cette parole du Deutéronome est applicable à notre situation actuelle. Celui qui refuse d'écouter la parole de l'homme de Dieu, eh bien, Dieu, ici, déclare que au moment du jugement, eh bien, il aura à rendre compte de ce refus. Et ça, c'est quelque chose dont on est obligé de tenir compte ici-bas. Dieu, c'est pas une matière facultative. C'est Dieu, il est essentiel à nos vies, parce que notre vie ne se définit pas seulement par la vie présente, mais par la vie éternelle. Le faux prophète déclare Dieu à Moïse, et Moïse au peuple, lui, il est déjà jugé. Celui-là, s'il parle de sa propre autorité, ou s'il parle, c'est bien pire, au nom d'autres divinités, eh bien celui-là mourra. C'est l'image du jugement, toujours. Il ne sera pas forcément terrassé par un coup de tonnerre, par la foudre. Mais, au jour du jugement, eh bien, celui-là ne trouvera pas d'excuse auprès de Dieu. On voit tout de suite que, pour le prophète, qui ne tient pas compte de Dieu alors qu'il connaît Dieu, eh bien, celui-là est bien châtié, bien plus fort que le premier, le croyant. On devrait l'appliquer aux prêtres. Les prêtres, devraient se l'appliquer à eux-mêmes. Parce que si on parle de son propre fond continuellement, on refait une autre religion. Alors, on est des usurpateurs. Or, nous avons un magistère, une tradition religieuse très claire. Et la formation sacerdotale consiste à en prendre connaissance et à la comprendre. Pire, si nous parlons au nom d'autres divinités, quelles sont-elles ces divinités? Ce sont les valeurs du monde. Qu'on ne reproche pas à un prêtre de ne pas être l'interprète des valeurs du monde. Malheureusement, on trouve des croyants qui reprochent au clergé de ne pas être les porte-parole des valeurs ambiantes, de ne pas en prendre la défense, ou alors du bout des lèvres, du bout de la main, dans la bénédiction. On n'a pas à faire ce reproche, parce que le prêtre, lui, en tant qu'homme de Dieu, répondra plus sévèrement que les autres de cette parole qu'il a fait entendre durant sa vie. Donc, quelque chose d'essentiel qu'est la parole de Dieu. Dieu parle à son peuple, Dieu parle à chacun d'entre nous. Il faut désirer retrouver cette fraîcheur évangélique que vivaient les apôtres, mais que vivaient déjà dans l'Ancien Testament ces êtres d'élection, les prophètes, les hommes de Dieu sous toute forme, dirons-nous. Hommes ou femmes de Dieu, car il y a aussi pas mal de femmes dans l'Ancien Testament qui sont manifestées dans la connaissance du Très-Haut. Eh bien, il faut retrouver cette fraîcheur-là, vivre en la présence de Dieu. Le monde nous bombarde de mauvaises nouvelles. On est de tout cœur, par exemple avec l'actualité, là, avec tous ces mouvements des paysans qui, à juste titre, réclament eh bien, d'être un peu plus reconnus dans leur profession pour pouvoir en vivre dignement. Mais ça, c'est une goutte d'eau au milieu de toutes les rumeurs du monde qui ne cessent de happer notre attention. Ce qui est beau dans la prière et dans cette fraîcheur évangélique dont je parle, c'est que dès qu'on se met en présence de Dieu, on prend de la hauteur. On se retrouve à Nazareth, ou ailleurs d'ailleurs, au pied de la croix peut-être, au jardin des Oliviers, ou sur le mont Tabor. Mais peu importe l'endroit où l'Esprit nous entraîne, lorsque nous prions, eh bien, nous sommes dans une grande distance critique vis-à-vis du monde. On peut enfin trouver cette paix qui vient seule de Dieu et que le monde ne peut pas nous communiquer, ni aucune de ses divinités. L'autorité du Seigneur, maintenant, c'est l'épisode là qu'on a lu dans l'Évangile. Son autorité, c'est étymologiquement, c'est le droit, le pouvoir. L'autorité, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de, qui a le droit de. Cette autorité, c'est aussi une autorité de connaissance, d'où la mention de Marc, qui précise bien que lui, quand il enseigne, donc avec autorité, il ne fait pas comme les scribes, qui eux n'ont pas cette autorité spirituelle. Ils n'ont pas cette connaissance de Dieu et de sa volonté. Ils ne sont pas des hommes de Dieu comme l'étaient les prophètes. Eux, ils regardent l'Écriture de l'extérieur. Et quelle que soit l'époque où ils interviennent, c'est à l'époque du Christ ou de nos jours, je pense aux exégètes en particulier, qui ne sont rien d'autre que des scribes en général. Ils n'ont pas d'autorité. Le posséder, on voit tout de suite que face à cette révélation du Christ, voyez, dans son autorité, et comment il exerce cette autorité, comment cette autorité rayonne-t-elle, c'est que le Christ est dans ses Écritures qu'il est en train de commenter, il est dedans. Ces Écritures parlent de lui, c'est une autorité sans comparaison avec aucun homme. Et là, ça fait réagir automatiquement le possédé, c'est-à-dire les démons. Le possédé cherche à prendre le pas sur le Christ en ouvrant la bouche. « Qui es-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » En posant cette affirmation sur l'autorité du Christ, que le démon ne cherche pas à nier, voyez, il cherche à la relativiser. Et comment fait-il ? Il y a la déclaration, mais il fait, c'est-à-dire, elle veut dire quoi ? Elle veut dire, nous reconnaissons ton autorité. Mais en même temps, il isole l'autorité du Christ parce que les démons sont des menteurs. Et il dit, toi, oui, c'est vrai, tu as une telle autorité que tu es au-dessus des démons. Toi, tu ne risques pas d'être lié comme se posséder à notre pouvoir. Mais les hommes qui sont là et qui t'écoutent, qui les protège ? Nous avons pouvoir sur eux. Alors toi, échappe-toi autant que tu voudras avec ton autorité, mais eux, ils n'ont pas intérêt à t'écouter, sinon ils vont se recevoir une drôle de leçon de notre part. C'est un peu ça, vous voyez, les démons essayent toujours de récupérer le discours de la foi et de le contourner et de le rendre inopérant d'une manière ou d'une autre. Jésus, lui, ne cherche absolument pas à dialoguer avec eux, il leur cloue le bec directement, « Tais-toi et sors de cet homme ». C'est la seule réponse que le démon puisse obtenir. Ça nous dit aussi, parce que ça a frappé les gens dans la synagogue, et c'est pas pour rien qu'ils ont été frappés de l'efficacité du Christ, c'est que la lutte contre les démons est la preuve également de son autorité spirituelle, celle du Christ, s'entend. Il est capable de sauver les hommes. Il le fait devant leurs yeux et il délivre le possédé de cet esprit qui le possédait. Et ça, c'est le fait d'être capable de déjouer les démons, les ténèbres, pas le mal pris d'une manière abstraite. Le mal pris d'une manière abstraite, ça n'existe pas. Ça existe, mais on peut l'appeler de tant de façons: détérioration, entropie, destin implacable. Vous voyez, tout ça, on n'a pas de prise sur le mal dans le monde. En revanche, on a une prise sur ceux qui le diffusent, à savoir les démons. Eux, ils sont l'aspect concret du mal. Vous voyez, il y a eu tout un mouvement, là, dans les années 60 et les décennies suivantes, qui consistait à démythologiser, c'est compliqué, la foi. Et on disait, le contraire de ce que je viens d'affirmer, que les démons étaient des personnalisations mythiques du mal. Il n'y avait que le mal à prendre en compte. Ah, la belle affaire pour ceux qui leur avaient soufflé ça à l'oreille, puisque sur le mal, nous n'avons aucune emprise. On était vaincus par avance. En revanche, les démons, Jésus nous le montre, on a une emprise sur eux, on peut les repousser, on peut ne pas écouter leur voix. Les démons, c'est pas un destin implacable et inéluctable. Mais pour cela, il faut le vivre dans la foi. C'est-à-dire, les démons n'ont de sens que dans la foi chrétienne, dans la révélation du Christ. C'est ailleurs, on est face au mal, cette espèce de chose écrasante qui, on se débat, mais il y a toujours une manifestation, un retournement, une autre personne qui l'endosse et le diffuse. On n'en voit pas le bout du mal. Donc, la preuve de l'autorité du Christ, c'est d'être capable de s'attaquer au problème du mal dans ce qu'il a de concret, précisément. Mais ce qu'il a de concret est également spirituel, incorporel, invisible, ce qui complique évidemment les choses, puisqu'on ne peut le voir que dans la foi. La foi, c'est la relation qui nous unit au Christ. Donc, voilà la grande autorité, et il nous la lègue, cette autorité, à chacun d'entre nous. Il n'y a pas besoin d'être exorciste pour chasser des démons. Alors, pas pour faire des exorcismes tels que l'Église le pratique, mais pour refuser leur proposition, pour éclairer les yeux de ceux qui sont prisonniers, qui se laissent séduire par leurs paroles, par leur lumière fallacieuse. Oui, nous avons ce pouvoir de les contrer. C'est magnifique. Jésus nous a donné cette puissance. Et quelle est-elle? Comment l'acquérir? Saint Thomas d'Aquin, que nous fêtons aujourd'hui, ce grand saint de l'intelligence, c'est justement en écoutant la parole de Dieu profondément. On l'écoute toujours superficiellement, il faut l'écouter profondément. Il faut demander au Seigneur de nous l'enseigner comme il l'enseignait à ses contemporains. Et c'est possible. Méditant la Bible, on est vraiment en présence de Jésus. Et Jésus nous fait approfondir des choses que par nous-mêmes, je ne dis même pas qu'on n'a pas la capacité, je dis qu'on passerait à côté sans faire attention. Il y a la Bible, et là je veux en être témoin personnellement, sa lecture se renouvelle tout au long de l'existence. Je n'ai jamais relu et relu et relu des passages de l'Écriture sans nouveauté. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est tout emplie de la sagesse, de la présence de Jésus-Christ.